Il est midi sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Les titres de cette édition, l'Ukraine accuse la Russie d'avoir bombardé sciemment un théâtre abritant un millier de civils à Marioupol. La France se prête à accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens, parmi eux de nombreux enfants. Comment les écoles se préparent-elles à l'arrivée de milliers d'élèves non francophones? Nous écouterons Benoît Teste, secrétaire général du syndicat enseignant FSU. L'ONU va manquer d'argent pour financer l'aide humanitaire aux victimes de la guerre au Yémen. Boris Johnson en tournée dans le Golfe pour tenter d'obtenir davantage de pétrole pour le Royaume-Uni. Londres veut réduire sa dépendance aux énergies russes. Enfin, la Turquie et la Tunisie, invitées du 17e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, qui se déroule à Saint-Denis et Paris jusqu'au 1er avril. Entretien avec la directrice artistique du festival, Emma Raguin. L'Ukraine accuse la Russie d'avoir sciemment bombardé un théâtre dans la ville de Marioupol, un théâtre dans lequel plus d'un millier de civils s'étaient réfugiés. La Russie dément être à l'origine du bombardement. Le nombre de victimes n'est pour l'instant pas connu. Sur le plan diplomatique, Jean-Yves Le Drian accuse la Russie de faire semblant de négocier avec les Ukrainiens. Le ministre français des Affaires étrangères évoque un processus dramatique de brutalité de longue durée. La France qui se dit prête à accueillir 100 000 réfugiés ukrainiens. L'école va devoir s'adapter à l'arrivée de milliers d'enfants traumatisés par la guerre et qui ne parlent pas le français. On écoute Benoît Teste, le secrétaire général du syndicat enseignant FSU.
Nous, on est intervenu très rapidement sur cette nécessité d'accueillir très largement les enfants des réfugiés ukrainiens dans les écoles pour les scolariser. D'ailleurs, avec l'ensemble des services publics aussi, de se mettre en situation d'accueillir ces populations. Et on a demandé notamment à ce que tous les dispositifs UPE 2A qui accueillent les élèves allophones, comme on dit, c'est-à-dire qui parlent pas la langue et qui sont des structures d'accueil intermédiaires, puissent être activés. On a eu quelques réponses et effectivement il y a eu un abondement de moyens dans quelques départements, pas suffisamment sans doute, et on va sans doute avoir dans les prochains jours une situation qui risque de coincer un petit peu en termes de nombre d'enseignants disponibles, même si après voilà, des solutions seront trouvées à chaque fois. On intervient à chaque fois pour signaler à l'administration quand il peut y avoir une difficulté ici ou là. On n'en note pas beaucoup pour l'instant de difficultés, les élèves sont accueillis. Après, nous on est intervenu aussi au niveau du ministère bien sûr, mais on le fait beaucoup dans chaque département en fait, parce que c'est souvent les directions départementales qui gèrent ça. Et sur le terrain, on constate que ça prend forme pour l'instant. Alors on verra s'il y a un flot plus important de réfugiés. Nous on pense que les structures sont pas suffisantes en l'état, donc on demande encore un abondement de moyens. Et c'est tout à fait possible de le faire en recrutant quelques personnels supplémentaires. Il faut aussi laisser le temps, évidemment, à tout le monde de s'installer, de reprendre ses esprits, comme on dit. Malheureusement, on sait bien que c'est des situations extrêmement compliquées.
Et justement, est-ce qu'il y a un besoin psychologique pour ces personnes, oui, pour ces élèves qui arrivent en France?
Justement, on pense qu'effectivement, il y a un besoin d'abord de les scolariser assez rapidement, parce que ça fait partie aussi d'une installation la moins pire possible. Ça fait partie de la nécessité de trouver des repères qu'on espère le plus provisoire possible. Mais bon, malheureusement, on peut quand même craindre qu'ils soient amenés à rester quelques semaines, voire quelques mois. Faut être totalement réaliste. Et le retour en Ukraine, à mon avis, enfin vu l'évolution de la situation, je suis pas spécialiste, mais ça risque quand même d'être assez éloigné. Donc, il faut leur donner des repères. Qu'il faut construire aussi dans la bienveillance, c'est extrêmement important avec ces enfants, Et donc, il faut aussi travailler sur le plan psychologique et social. On a beaucoup d'infirmières scolaires aussi qui nous disent qu'elles travaillent avec ces enfants pour les accompagner, pour faire s'exprimer aussi tous les tout ce qu'ils ont en eux et qui est extrêmement triste. Ils ont vécu aussi des situations extrêmement douloureuses souvent. Et donc, il y a tout un travail d'accompagnement avec des professionnels. Pour le coup, on a des professionnels formés à ça. On n'en a pas assez, malheureusement. Mais en termes de formation, on sait faire. Hein, et les personnels, alors notamment infirmiers, je disais, mais il y a aussi toute une série de psychologues dans l'éducation nationale. Nous, on dénonce souvent le manque de moyens, mais on peut quand même dire aussi qu'on a des ressources importantes dans l'éducation et que c'est important de les mettre à disposition de ces réfugiés ukrainiens, effectivement.
Comment cela se passe au niveau de la langue? Comment faites-vous pour que les élèves puissent comprendre les cours, tout simplement, les déplacés ukrainiens en France?
Alors, souvent, c'est effectivement un peu difficile au début. Souvent, il y a un ou deux élèves. Alors, ça se passe, en fait, de manière très informelle, hein, au cas par cas, en fait, selon les classes. Les collègues qui sont dans les UPE2A ont un peu l'habitude de ça. Souvent, ils s'appuient sur un ou deux élèves qui ont une petite connaissance de la langue française, et donc pour que ces élèves-là traduisent à leurs camarades. Dans d'autres cas, il y a quasiment personne qui maîtrise la langue, et du coup, ça se fait au départ par des signes, par des dessins, par des gestes aussi, hein, avec des enseignants qui parlent en français, ça c'est important, mais qui montrent bien que c'est pas très important si l'élève, puisque c'est normal de qui comprennent pas tout, mais par contre qui vont essayer de parler avec d'autres langages, le langage des signes, des dessins, etc. Alors ça, c'est pour les petites classes, hein, et puis après, ça peut se passer différemment ailleurs. C'est vraiment au cas par cas, mais c'est pas du bricolage, hein, c'est vraiment une habitude qui a été prise par les personnels dans les UPE2A. On sait que c'est comme ça aussi que ça fonctionne, que ça donne un cadre bienveillant et qui permet après très rapidement de progresser parce que dans leur environnement, eh bien, ils sont amenés à parler français. Souvent, les classes UPE2A, ce qui est important, c'est qu'ils vont aussi en classe ordinaire, alors plus ou moins, selon le niveau de langue qu'ils ont. Ils sont aussi, évidemment, dans des établissements où il y a des classes ordinaires à côté des classes, et ça, c'est extrêmement important. Et du coup, tout ce qui est organisé, à la fois en termes de prise en petits groupes, parce que c'est important qu'ils se retrouvent en petits groupes, et qu'ils ne soient pas noyés dans des classes ordinaires, surtout quand ils parlent absolument pas, mais tous les temps qui sont à la cantine, dans la cour de récréation, avec les autres, pour qu'ils fassent des camarades dans l'ensemble de l'école, c'est hyper important et c'est très bien organisé, c'est pensé. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'avoir les Ukrainiens qui soient à part dans l'école, c'est au contraire de favoriser tous les moments d'échange. Donc tout ça, effectivement, se met en place sur le terrain. Après, voilà, s'il y a un flot important de réfugiés, il va falloir se mettre en quatre, hein, comme on dit. On le sait faire, hein, mais c'est vrai que c'est une situation qui exige beaucoup de professionnalité et qui exige qu'on s'y attarde beaucoup, quoi.
Benoît Teste, le secrétaire général du syndicat enseignant FSU, il répondait à François-Xavier de Calonne. L'ONU va manquer d'argent pour venir en aide aux victimes de la guerre au Yémen. Les donateurs ont promis de donner 1,3 milliard de dollars, alors que les Nations Unies ont besoin de 4,3 milliards pour sauver la population d'une catastrophe humanitaire. Le prince héritier saoudien a reçu Boris Johnson à Riyad. Le premier ministre britannique effectue une tournée dans le Golfe pour que le Royaume-Uni obtienne davantage de pétrole, ceci pour réduire la dépendance du pays aux approvisionnements énergétiques russes, une tournée décidée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Au Liban, le gouvernement a approuvé la destruction des silos du port de Beyrouth, une destruction qui avait été refusée par des proches des victimes de la double explosion du 4 août 2020. La Turquie et la Tunisie à l'honneur du 17e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, un festival qui se déroule jusqu'au 1er avril. Au cinéma L'Écran à Saint-Denis et dans d'autres lieux comme le cinéma Le Luxor à Paris, présentation de ce festival avec la directrice artistique Emma Raguin.
Pour l'historique, c'est notre 17e édition. On avait commencé en 2006 avec le Panorama des cinémas du Maroc. Le fondateur, le président fondateur est cinéaste d'origine marocaine et avait découvert toute une cinématographie qu'on ne connaissait pas en France quand il avait cherché un peu à faire un tournage au Maroc et à rencontrer des professionnels. Et il s'était dit, oh mais ces films sont extrêmement intéressants. Ils sont merveilleux et c'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas vus en France. Donc, il avait eu l'idée de cette première édition et était allé voir le directeur du cinéma d'écran, Boris Spire, pour lui proposer cela. Première édition, donc Cinéma du Maroc, un succès fou, le public au rendez-vous et donc on commence un peu à réfléchir à l'évolution et il y a une communauté algérienne assez importante dans la région Île-de-France et des films passionnants aussi. Donc du coup, dès la deuxième année, on a fait une fenêtre sur l'Algérie et ensuite, très rapidement, c'est devenu le Panorama des cinémas du Maghreb. En parallèle, il y a toute une professionnalisation au Maghreb, au Moyen-Orient. Il y a des festivals de classe A, dont un festival de classe A, c'est un festival avec un marché du film, vous le savez sans doute. Et donc, il y a eu aux Émirats Arabes Unis le festival de Dubaï. Donc, il y avait des financements pour le développement des films, l'écriture, la post-production, etc. Et il y a eu comme ça une montée en puissance et du nombre de films produits dans cette grande région du Maghreb et du Moyen-Orient, et également de la qualité des films. Donc, nous, on s'y est intéressés immédiatement et on est devenu PCMMO, Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient.
Alors, quels sont les pays invités cette année lors de ce festival qui se déroule à Saint-Denis ?
Tout à fait. Alors, le cœur du festival est à Saint-Denis, c'est Focus Turquie et Fenêtre sur la Tunisie contemporaine. Alors, pour la Turquie, c'est vraiment la première fois qu'on s'intéresse de près à ces cinématographies, sachant qu'il y a des grands cinéastes turcs tels que Nuri Belgselan qui avait eu la Palme d'Or à Cannes avec Winter's Sleep, mais on a voulu aussi regarder davantage du côté de la jeune génération, on va dire, de la création contemporaine. En particulier, il y a une dizaine de cinéastes, de réalisatrices totalement passionnantes avec qui explorent des genres cinématographiques très différents, que ce soit du film d'anticipation à une fiction un peu plus classique, à des documentaires sur des sujets de société très importants comme la question d'être réfugié, parce qu'il y a pas mal de réfugiés syriens, comme vous le savez sans doute, en Turquie, et qu'est-ce qui se passe quand on est réfugié homosexuel, etc. Une création extrêmement stimulante en termes de forme et en termes de sujet.
Autre grand pays du cinéma, la Tunisie.
Ah oui, oui, oui. Alors, on a eu beaucoup de plaisir de revenir sur les cinématographies de Tunisie. Donc là, c'est un pays passionnant parce qu'il y a une grande économie du cinéma. C'est-à-dire que non seulement les films sont produits, mais en plus, ils sortent en salle en Tunisie. Le public va les voir, le public tunisien soutient son cinéma. C'est vraiment une exception au Maghreb. Il y a également ce grand festival de cinéma, les Journées cinématographiques de Carthage. Et donc, cette année, on a de la chance parce qu'on va recevoir Jilani Saadi pour son film Insurrection, qui a eu le prix Tanit de bronze à Carthage. On suit également un petit peu, on se fait un petit bilan 10 ans après les révolutions avec des documentaires, notamment le documentaire de Widet Zorlami, Fatala TV, 10 ans et une révolution plus tard. Mais également, Raja Amari a fait un documentaire sur les élections les plus récentes. Et on voit là aussi que les femmes sont au rendez-vous dans la société civile. Et donc, ça promet des soirées rencontres puisqu'on a la chance d'avoir les cinéastes présents pour toutes les séances. Donc ça promet des soirées tout à fait belles et intéressantes.
Voilà. Avec quelques avant-premières, notamment Paysages d'automne de Merzak Alouache.
Oui, alors Merzak Alouache, en fait, son film n'est pas encore sorti parce que avec ces deux années Covid, je pense que voilà, les conditions n'étaient pas réunies. Donc on est très heureux de montrer ce polar tout à fait intéressant dans la filmographie de Merzak Alouache, parce que il produit, finalement, on peut se rendre compte sur ces 10 dernières années que chaque fois qu'il y a un nouveau film, il explore un nouveau sujet, un nouveau genre, et ce film est vraiment nous a beaucoup plu en équipe. On est très contente de le montrer. On va également montrer son documentaire Des femmes. Alors ce documentaire a ceci de particulier, c'est que il avait déjà à l'époque en 88, alors qu'il y avait des mouvements de la population, des manifestations, il était déjà allé rencontrer des femmes et qui parlaient des mouvements féministes, de l'égalité qu'elles souhaitaient, etc. Et là, avec le Hirak, donc 30 ans plus tard, il va à la rencontre de femmes aussi du carré féministe qui parlent des combats d'aujourd'hui. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'on a le sentiment que les combats sont toujours les mêmes, mais qu'en même temps, il y a une nouvelle génération de féministes qui est soutenue par les anciennes, qui est en train de faire bouger les lignes. Et ça, c'est vraiment magnifique à voir.
Emma Raguin, directrice artistique du 17e panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Il se déroule jusqu'au 1er avril au cinéma L'Écran à Saint-Denis, mais aussi dans des salles à Paris. Emmanuel Macron va commémorer samedi à l'Élysée le 60e anniversaire des accords d'Évian. La cérémonie réunira des personnalités liées à la guerre d'Algérie. Et puis dimanche, 10 ans après les attentats terroristes commis par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban, des commémorations sont prévues. Le président Macron participera à une cérémonie en compagnie de ses prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les négociations avancent sur la possible levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. L'Union européenne, les États-Unis, l'Inde et l'Afrique du Sud sont parvenus à un accord. Il reste maintenant à convaincre le reste des États membres de l'OMC. Enfin, à 19h et 23h, et si on en parlait sur Radio Orient, émission consacrée à la façon dont se déroule l'élection présidentielle en France. Les invités d'Alexis Bachelet seront le politologue Philippe Moreau-Chevrolet et Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Je vous retrouve à 15h pour le Flash, 17h30 pour le journal. Excellent après-midi à tous à l'écoute de Radio Orient.